Il est clair que la Chine, elle fascine depuis Marco Polo. Depuis le 16e, on sait qu'il y a une Chine à laquelle on prête des vertus inouïes, et sur le plan des idées, sur le plan des mœurs, et sur le plan des produits. Hein, c'est vraiment la myrte, l'encens, la soie, enfin les produits, les pierres, toute cette espèce de mirage asiatique qui va toucher très fort la cour, Versailles, le cabinet chinois, les estampes, la toile de Jouy, la laque, enfin tout ça. Ça joue un rôle extrêmement important. Et ensuite, ça va être remplacé par le japonisme, qui lui aussi va être déterminant. Genre, quand on voit l'influence du japonisme sur Monet, sur Van Gogh ou sur Gauguin, c'est inouï.
Qui reproduisait des estampes de Kusai et d'autres.
Absolument, absolument, avec le trait, enfin toute une école du trait, la réduction des signes, donc ça joue un rôle essentiel. Ça, c'était, je dirais, pour l'influence artistique. Donc le Japon a très vite un peu chassé la Chine, et puis ils ont fini par tous les deux s'abattardir pour devenir un produit identique. Et c'est un peu pareil dans la hiérarchie des considérations. D'abord, les Chinois, on les a pas vus. On a vu les potiches, on a vu les paravents, on a vu les lacs sur lesquels il y avait des petits Chinois représentés, mais physiquement, on les voyait pas. Les Japonais, c'est un peu pareil. Il a fallu attendre ces expositions pour en voir quelques-uns. Et donc, en termes de perception, on voit très peu les Asiatiques. On les voit très peu et très vite, on va un peu les mélanger. De toute façon, pour le bon public, là, on ferait un micro-trottoir tous les deux, on dirait tout ça, c'est des jaunes ou des bridés. Et ce sentiment est renforcé par deux choses extrêmement importantes qui vont chaque fois, je dirais à chaque fois finalement, les fantasmes culturels sont tout de même, même s'ils sont des fantasmes, sont tout de même plus agréables à supporter que les fantasmes politiques. Je veux dire par là que tout cet imaginaire dont la pagode devant laquelle nous sommes témoigne, etc.
Avec ses bambous.
Voilà, c'est plutôt chaleureux, ça donne un envie de connaître, d'échanger et d'aller voir. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la politique rattrape à chaque fois ses représentations et les tire vers le bas. Je m'explique. En 1899, il y a cette chose qu'on va appeler la révolte des boxeurs. Les célèbres 55 jours de Pékin, avec les blancs encerclés par des hordes.
Pour résumer, la révolte des boxeurs,
c'est un mouvement de patriotes chinois qui se soulèvent contre le fait que la Chine est totalement en train d'être dépecée par les puissances occidentales. Et les images ici vont frapper l'opinion. Hein. C'est les sacrifices des 100 000 supplices, les gens accrochés par des clous, les têtes coupées. Alors tout d'un coup, il y a une première alerte qui est finalement ces jaunes qu'on ne croyait que réduits à leurs produits commerciaux, à leurs potiches, tout d'un coup se révèlent capables de mettre en échec, après tout, une volonté occidentale, une volonté blanche. Et puis le deuxième coup de semonce, ça va être la défaite russe devant les Chinois en 1905, où là, vraiment, on va se dire, alors, les Japonais, à leur tour, émergent. Et c'est pas un hasard si à ce moment-là, on commence à parler de péril jaune. Et sort le bouquin du capitaine d'Henri, alias Drian, député des Vosges. Et tout d'un coup, on va commencer à voir naître cette idée d'invasion de péril jaune. C'est-à-dire que tout d'un coup, de gentilles petites figurines décoratives, de clichés exotiques, on va passer à des races dangereuses, se reproduisant comme des lapins, et donc qui vont un jour ou l'autre nous envahir. Et ce stéréotype-là, finalement, va perdurer. Et on va s'apercevoir qu'il y a un autre phénomène qui est amplificateur de cette paranoïa de l'invasion. C'est que, avec la guerre, vont arriver non seulement des régiments de soldats coloniaux, indochinois, africains ou maghrébins, et puis également des milliers, des centaines de milliers de travailleurs. Parce qu'il y a des centaines de milliers de travailleurs chinois, qui donc vont s'insérer dans la classe ouvrière. Voilà. Et par conséquent, l'image du prince exotique va se transformer instantanément en image du lumpen.
La fourmi, quoi.
La fourmi laborieuse, et qui en plus arrache un peu le pain de notre bouche. Donc on voit bien là le mouvement de basculement, qui est donc une stigmatisation de l'autre. Il est clair qu'en 1930, la vision de l'asiatique, elle n'est plus du tout celle du début du siècle.